France Musique. Edgar Degas, le peintre de la vie. À la fin du Second Empire, quelques jeunes artistes commencent à remettre en question l'art officiel. On les appelle les intransigeants ou encore les impressionnistes. Edgar Degas est incontestablement un des leurs, mais il entretient un rapport parfois complexe avec ses camarades. Ils sont tous de la même génération, grandissent et vieillissent dans un contexte agité. Les événements de 1848, le Second Empire, la guerre franco-prussienne, la Commune et la Troisième République. Les importants travaux publics menés par le baron Haussmann permettent d'apporter progrès et modernité. Et l'étoile des peintres impressionnistes met en valeur ces nouveaux paysages. Ponts, gares et villes modernes deviennent les nouveaux sujets de leur toile. La peinture d'histoire meurt peu à peu au profit de la recherche d'une lumière naturelle, véritable sujet du tableau. On privilégie alors la peinture de plein air sur le motif. Mais aucune exposition ne veut montrer l'étoile des nouveaux peintres. Cézanne, Pissarro, Berthe Morisot, Sisley, Manet ou encore Monet sont les refusés des salons. La bourgeoisie régnante garde des goûts très réactionnaires et ne reconnaît ses valeurs que dans le classicisme le plus académique et légèrement teinté de romantisme. Pour elle, un artiste doit avoir étudié à l'école des beaux-arts. C'est l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée en 1648, qui instaure la tradition d'exposer ces artistes. Ces derniers soumettent alors un morceau, dit de réception. Depuis 1785, ces expositions sont organisées au Salon Carré du Louvre. On parle alors du Salon officiel. Depuis 1798, un jury choisi par le gouvernement soutient la tradition du chef-d'œuvre et exclut systématiquement tous les nouveaux peintres. Mais les réclamations se font de plus en plus nombreuses et Napoléon III fait ouvrir en 1863 un salon des refusés, voulant laisser le public seul juge. Mais là encore, seule la peinture académique est appréciée. En 1867, on peut lire sous la plume d'Émile Zola, alors critique des salons, « Paul Cézanne est refusé. Le jury a fermé ses portes à tous ceux qui prennent la route nouvelle. » On va jusqu'à les traiter de communards, d'anarchistes. Leurs audaces sont jugées insensées et ridicules. Leur couleur crie à en crever les yeux, peut-on entendre. Edgar Degas ne sera jamais un refusé. De 1865 à 1870, il envoie chaque année ses œuvres au salon avec succès. Sans doute ne fait-il pas figure de révolté. Mais après la guerre de 1870, il cesse définitivement ses envois. Le conflit franco-prussien de 1870 marque profondément le peintre. Degas vit ce désastre à Paris où il sert, comme Manet, dans la garde nationale. Mais il est transféré dans l'artillerie pour motif de mauvaise vue. Degas ne sort pas indemne de la guerre. Il est touché physiquement, moralement et politiquement. Mais aucune scène évoquant la guerre de 1870 ne surgit sous le pinceau de Degas. Degas n'est pas un peintre d'histoire, mais grâce aux nombreux portraits exécutés entre 1855 et 1880, il fait revivre la bonne société, celle du triomphe de la bourgeoisie régnante au XIXe siècle. Dès 1874, Degas va se joindre au groupe des impressionnistes et organiser toutes leurs expositions. Il retrouve alors les peintres Monet, Renoir, Pissarro et Berthe Morisot. Mais ils ne partagent pas leur goût de la campagne, ni du plein air, ni d'ailleurs leur recherche sur la lumière naturelle. Ils préfèrent travailler en atelier et au contraire, se pencher sur les effets de la lumière artificielle, celle des lampes à gaz. Il choisit aussi de se concentrer sur des motifs plus personnels, comme le mouvement des corps à travers la danse. Sa mémoire visuelle lui permet de retranscrire précisément dans son atelier les sujets qu'il a observés, qu'il recrée dans une composition picturale voulue par lui. Degas revendique le droit de l'artiste à traduire ainsi sa volonté artistique. Il s'oppose en cela aux autres impressionnistes qui privilégient la spontanéité de la peinture sur le motif. Son grand maître Ingres ne lui disait-il pas « Jeune homme, jamais d'après la nature, toujours d'après le souvenir. » Alors il s'éloigne. Degas est un observateur sceptique et sans illusion. Homme secret, d'un tempérament difficile et à la personnalité trop indépendante, il ne peut se fondre dans un groupe. Degas pose un regard réaliste, souvent cruel sur la société de son temps. Il cherche alors à exprimer dans ses tableaux l'incohérence, l'insolite ou l'incompréhension des situations. Une réalité sociale qui n'échappe pas non plus à son contemporain Émile Zola. Que l'on observe les repasseuses peintes par Degas en 1884. C'est elles qui sont à l'origine d'une minutieuse description de la blanchisserie de Gervaise dans l'Assommoir. Les gestes des repasseuses de Degas sont en effet les mêmes que celles de Zola. La fatigue que l'on sent dans le tableau, ces femmes qui sont usées, et cette bouteille d'alcool. L'alcoolisme si présent dans l'Assommoir, Zola ne manque pas de le dépeindre à partir du tableau de l'absinthe. Une femme et un homme aux traits défaits, l'air accablé. Les ravages de l'absinthe sont aussi sous la plume de Zola, grâce au réalisme du travail de Degas. Dans son atelier, il témoigne avec une grande minutie d'une société que ses contemporains n'ont pas toujours le courage de représenter. Les scènes de café, les blanchisseuses, les modistes, les courses hippiques, le monde du spectacle. Degas est le peintre de la vie, le peintre du mouvement. N'ayant pas à vendre ses tableaux pour vivre, il travaille sans commande sur ses thèmes favoris. Le ballet devient son sujet artistique dominant. Il y voit, en dehors de la magie qu'il exerce sur lui, un sujet idéal d'observation du mouvement rapide, mais aussi d'une obscure réalité du quotidien. Aucun peintre n'est aussi unanimement associé à l'univers de la danse que Degas. Grâce à un ami musicien de l'orchestre, Degas parvient à se glisser dans les coulisses du prestigieux Opéra de Paris. Il ne se contente pas d'assister aux répétitions. Tel un artiste reporter, il nous fait découvrir l'envers du décor, les efforts et les souffrances des jeunes danseuses de l'opéra. Sans complaisance, il révèle l'intimité de ce monde tel qu'il est en cette seconde moitié du XIXe siècle. Car même s'il partage l'engouement des ballettomanes sous le Second Empire et la Troisième République, il a volontairement ignoré ce qui charme ces derniers, l'apparat et la vanité. Il n'a toutefois pas manqué de les représenter, ces riches messieurs élégants abonnés de l'opéra et à qui il est permis d'assister aux répétitions, d'être admis dans les coulisses lors des spectacles, mais aussi dans le foyer, à leur véritable lieu de rendez-vous galant. Une réalité que Degas ne se prive pas de représenter, sans oublier les mères, loin d'être innocentes. Dessinateur, peintre, sculpteur, photographe, Edgar Degas explore l'univers de la danse car il est un art visuel, un travail de l'équilibre et du mouvement. Plus d'un millier de dessins, pastels ou peintures à l'huile nous enseignent le mouvement. À la scène, cadre de gestes beaucoup trop convenus, il préfère naturellement le huis clos des coulisses, des salles de classe et de répétition. L'entraînement physique exigé par la danse lui rappelle celui tout aussi précis et méticuleux du dessinateur. Soigner chacune de ses courbes et de ses lignes. Dans ses années de jeunesse et de formation, son maître Ingres ne lui disait-il pas « Faites des lignes, beaucoup de lignes, de mémoire, et vous deviendrez un bon artiste. » Le regard de l'artiste, certes, est celle de l'étude du mouvement, mais il dévoile par la même occasion ce qui fait la vérité et l'authenticité du ballet. Luttant contre les clichés et les stéréotypes, Degas n'idéalise rien. Danseuse à l'exercice, en répétition ou au repos. Son but n'est pas de faire l'apologie de la beauté de la danse, comme la société de l'époque l'aurait souhaité. Sur une multitude de croquis, il saisit les mouvements des corps, des âmes et de la vie. Les attitudes ordinaires de ces danseuses qui transpirent ou qui ont froid, qui rajustent une ceinture ou lassent un chausson. C'est dans la fatigue, la mélancolie et le quotidien qu'il exalte la danse féminine. Certes, les performances scéniques, mais aussi et surtout, les efforts de ses ballerines. En simple témoin, il est attentif aux moindres détails. Un éventail posé sur une chaise, l'arrosoir avec lequel on humidifie le parquet afin d'éviter d'y glisser, l'énorme poêle qui réchauffe à grand-peine les salles glacées en hiver, le violoniste qui accompagne le son et répétition, et aussi un maître de ballet, tout de blanc vêtu. Il se nomme Louis Mérante et il est l'un des seuls personnages masculins présents dans l'œuvre de Degas, mais aussi dans l'univers de la danse en cette fin de siècle. Témoin de la réalité, Edgar Degas offre à travers la modernité de son travail une autre vision du monde de la danse. C'est dans le commun qu'est la grâce, déclare-t-il. Mais surtout, ajoutons, dans les lignes, les courbes, les couleurs du peintre d'Edgar Degas. Par l'exigence de son travail, le respect de la condition des ballerines, la juste appréciation de leurs efforts, Edgar Degas offre un autre regard sur le monde du ballet et des danseuses. Sans doute un premier témoignage pour une nouvelle condition des ballerines.
À réécouter sur francemusique.fr.